19 et 20 juin, le débrief vous revient à l'antenne de votre radio communautaire francophone, CILS 107,9 FM. Un menu interview bien garni pour vous aujourd'hui. Nous parlerons à trois intervenantes de la communauté francophone de Victoria. Gisèle Sanson, l'une des pionnières de CILS FM, sera en studio pour nous parler notamment du projet Souvenance Reconnaissance de l'Association historique francophone de Victoria. Nous nous entretenons ensuite avec Carrie-Anne Arup à propos de l'annexe de l'école Victor Brodeur à Oak Bay, l'annexe d'Oak Bay comme on l'appelle communément, et de son nouveau statut indépendant. Nous évoquerons également la fête de fin d'année qui aura lieu le 23 juin. Et nous aurons également au bout du fil Sophie Audet pour évoquer la participation de l'équipe Colombie-Britannique aux Jeux de la francophonie de Moncton-Dieppe le mois prochain. Sophie Audet est chef de mission de l'équipe Colombie-Britannique à cette édition 2017 des Jeux. Bonne émission à tous. Vous écoutez le débrief édition des 19 et 20 juin. On va faire une petite revue de presse internationale immédiatement, un peu plus courte que d'habitude car nous avons beaucoup d'interviews dans le menu aujourd'hui. On débute sur le portail de Radio-Canada à propos des législatives françaises, des élections législatives à deux tours françaises qui se sont conclues avec le deuxième tour hier dimanche. D'ailleurs, le débrief fera une émission spéciale sur les législatives françaises. Ce sera diffusé demain, une émission spéciale d'une heure, réunissant des ressortissants de la communauté française de Victoria sur ce sujet. En attendant, on peut déjà consulter cet article de Radio-Canada. Législative française, la majorité absolue pour le parti d'Emmanuel Macron, le président. Les électeurs français donnent une majorité absolue au parti d'Emmanuel Macron, La République en marche, et à son allié, le parti du Modem. Ces deux partis comptent 350 députés sur 577, bien au-delà de la majorité absolue des 289 sièges. Le Front national ne remporte que 8 sièges, signale cet article de Radio-Canada. Même topo dans les colonnes de l'agence France-Presse. Législative en France, majorité écrasante pour Emmanuel Macron, abstention record. Le nouveau président français Emmanuel Macron a obtenu une majorité parlementaire, balayant les autres partis et obtenant une latitude pour conduire ses réformes dans un scrutin assombri par une abstention sans précédent. Vous trouverez ça dans le fil de l'agence France-Presse. Et sur le portail de Bastamag, à l'adresse bastamag.net, toujours à propos de ces élections législatives françaises, une assemblée rajeunie, féminisée, mais qui oublie les ouvriers. C'est par le journaliste Yvan Duroy. La nouvelle assemblée s'est fortement renouvelée, écrit-il. Elle est un peu plus jeune que la précédente et la proportion de femmes continue de progresser, même si la parité est encore éloignée. Mais ce renouvellement ne concerne pas tout le monde. Les catégories populaires y sont faiblement représentées et les ouvriers totalement absent. Un problème de taille quand les députés seront amenés à légiférer rapidement sur les conditions de travail et les protections sociales, sans oublier l'énorme abstention qui marque le début de cette nouvelle législature. En France, toujours une note supplémentaire pour signaler une tentative d'attentat sur les Champs-Élysées. C'est rapporté par tous les médias. Un homme au volant d'une berline grise a foncé hier sur un fourgon de gendarmerie sur les Champs-Élysées. La voiture qui contenait des armes et une bonbonne de gaz s'est embrasée lors de la collision. Le conducteur a été extrait par les gendarmes qui ont constaté son décès. On va passer sur d'autres manchettes internationales plutôt rapidement. Syrie, l'ONU souhaite relancer les discussions. C'est dans le portail de Radio-Canada. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, veut relancer le 10 juillet un nouveau cycle de discussions sur l'avenir de la Syrie, ont annoncé les services de l'ONU. Assaut final à Mossoul en Irak, l'armée irakienne appelle les djihadistes à se rendre. Au deuxième jour de l'assaut final contre la ville irakienne de Mossoul, les forces armées gouvernementales appellent les djihadistes de l'État islamique à se rendre. 100 000 civils, dont des enfants, sont pris au piège dans cette zone de combat. C'est une nouvelle rapportée par Ouest France. Vous trouverez ça sur le portail westfrance.fr. Un raid aérien saoudien aurait fait 25 morts sur un marché au Yémen. Au moins 25 Yéménites ont été tués dans un bombardement aérien de la coalition saoudienne qui a visé un marché de la province de Sada, dans le nord du pays, a annoncé un responsable des services de santé locaux. Retour en Europe, Theresa May en sursis avant le Brexit. La première ministre britannique aborde le premier jour des négociations européennes en état de faiblesse, écrit le journal Le Monde. C'est signé par le journaliste Philippe Bernard. Je vous lis un court passage. La Grande-Bretagne, écrit le journaliste, aborde les négociations du Brexit en état de faiblesse en raison du pari manqué de la première ministre Theresa May. Voici tout juste 2 mois, Theresa May annonçait des élections anticipées qui devaient lui permettre d'aborder le Brexit en position de force après avoir affermi sa majorité. Au lieu de quoi, elle l'a perdu, cette majorité, le 8 juin, en obtenant que 318 sièges sur 650 au Parlement de Westminster à Londres. Début avril, la cote de popularité de Theresa May était au zénith, dépassant même celle de Margaret Thatcher au fait de sa gloire. Aujourd'hui, seuls 29% des Britanniques ont une opinion favorable de Theresa May, tandis que le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, culmine maintenant à 46%. Donc un renversement complet de la vapeur en Grande-Bretagne. C'est maintenant Jeremy Corbyn qui a la faveur populaire et la première ministre Theresa May se retrouve en position de faiblesse au moment de négocier le Brexit. Vous trouverez ça dans le journal Le Monde, notamment. Jour de deuil au Portugal, une collecte nationale s'organise, c'est dans le portail RFI Radio France Internationale. L'incendie meurtrier qui ravage une région du centre du pays au Portugal court toujours et le bilan ne cesse d'augmenter. L'incendie a causé 62 morts et plus de 60 blessés, écrit-on dans cet article. Quelques 2000 pompiers sont encore à pied d'œuvre. Le gouvernement portugais a décrété un deuil national de 3 jours et la solidarité nationale s'organise avec le lancement d'une collecte nationale pour venir en aide aux populations touchées par ce drame. Et on va refermer cette courte revue de presse internationale avec une nouvelle qui nous arrive d'Extrême-Orient, Japon. Comment un destroyer américain a-t-il pu percuter un porte-conteneur? C'est la question que pose cet article. Comment diable un navire militaire américain suréquipé a-t-il pu entrer en collision avec un navire marchand long de 220 mètres? La question reste sans réponse. Après l'accident survenu la nuit dernière au large du Japon, qui a vu l'USS Fitzgerald et l'ACX Crystal se percuter. 7 marins américains sont toujours portés disparus. Voilà, c'est sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale pour les 19 et 20 juin. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques instants avec une revue de presse nationale et provinciale. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, édition des 19 et 20 juin. Nous allons passer immédiatement aux nouvelles canadiennes. On débute sur le portail de Radio-Canada, le gigantesque défi de préserver les langues autochtones. On compte au pays plus d'une 60aine de langues autochtones, écrit la journaliste Madeleine Blais-Morin dans cet article. Plusieurs de ces langues sont sérieusement menacées. Certaines ne comptent qu'une poignée de locuteurs, portrait de la situation tantôt inquiétante, tantôt encourageante, au Yukon en particulier. Donc je vous encourage à lire cet article sur le portail de Radio-Canada, le gigantesque défi de préserver les langues autochtones. Question autochtone toujours, 64 femmes autochtones lèvent le voile sur les agressions policières en Saskatchewan. C'est dans le portail saskatchewanais ou françaisquois si vous préférez de Radio-Canada. Une enquête de l'organisme Human Rights Watch révèle un climat d'agression, de violence, de peur et de préjugés raciaux de la part des forces policières envers des femmes autochtones de la Saskatchewan. L'étude est basée sur 6 semaines d'enquête menées auprès de 64 femmes autochtones de la Saskatchewan entre janvier et juillet 2016. Human Rights Watch a aussi interviewé des fournisseurs de services à Prince Albert, Regina, Saskatoon et plusieurs petites collectivités du nord et du centre de la Saskatchewan. C'est un article qui est signé par Andréane Appa-Bladza dans le portail francescois de Radio-Canada. Denis Lebel tire sa révérence, c'est dans le portail lapresse.ca sous la plume du journaliste Joël-Denis Bellavance. Le député conservateur de Lac-Saint-Jean et ancien lieutenant politique de Stephen Harper au Québec, Denis Lebel, rentre dans ses terres après une carrière politique de 10 ans sur la scène fédérale. On peut rappeler par exemple qu'il était ministre des Transports au moment de la catastrophe de Mégantic, la catastrophe ferroviaire qui avait coûté la vie à près de 50 personnes à Lac-Mégantic. Au Québec. Lebel était, depuis la défaite de Stephen Harper, la défaite des conservateurs en 2015, chef adjoint par intérim du Parti conservateur. Dans la presse canadienne maintenant, nouvelle stratégie du gouvernement Trudeau pour contrer la violence basée sur le sexe. Le gouvernement libéral devait dévoiler aujourd'hui sa très attendue stratégie sur la violence basée sur le sexe, stratégie qui comprendra une manière de développer et partager les recherches sur plusieurs sujets, allant du harcèlement dans la rue à l'inclusion des garçons et des hommes dans les pistes de solutions. On revient dans les pages de la presse. Un autre article signé par Joël-Denis Bellavance attire notre attention. Caroline Mulroney se lance en politique provinciale. Longtemps courtisée par des militants conservateurs pour qu'elle se lance en politique fédérale, Caroline Mulroney, la femme, fille aînée de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, compte plutôt faire le saut en politique provinciale en portant la bannière du Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Vous trouverez ça dans le journal La Presse. Et plus localement, à l'échelle de la Colombie-Britannique maintenant, un article repéré pour vous dans le portail du Taï à l'adresse de taï.ca. 9 things the real estate industry doesn't want you to know. 9 choses que l'industrie de l'immobilier ne voudrait pas que vous sachiez. C'est par le journaliste Jeff Dembeki dans le Taï. Alors on peut citer rapidement ces neuf secrets que l'industrie souhaiterait ne pas éventer. La première chose que l'industrie ne souhaite pas que vous sachiez, c'est que les ventes d'immobilier ne sont plus présentées comme des ventes de maisons, par exemple, mais bien comme des investissements. L'industrie voit l'immobilier comme un secteur d'investissement et non comme une façon de se loger, comme un accès à la propriété ou au logement. Numéro 2, les personnes fortunées profitent actuellement de la crise immobilière en Colombie-Britannique. Donc une autre vérité que l'industrie ne souhaite pas que vous sachiez. Numéro 3, les prix qui croissent rapidement ont pour effet d'agrandir le fossé entre les classes sociales. Numéro 4, les leaders de l'industrie de l'immobilier préfèrent tirer profit des inégalités financières et de revenus dans la province plutôt que de tenter de faire partie de la solution. Alors la liste se poursuit, je vous en cite encore un autre. Les spéculateurs locaux profitent de la crise actuelle tandis que plusieurs pointent du doigt les étrangers, les Chinois notamment. Donc plutôt que d'accuser les étrangers, il faudrait plutôt se tourner vers les spéculateurs locaux qui résident en Colombie-Britannique, et ce sont eux, indique cet article du Taï, qui contribuent à la crise actuelle qu'on connaît dans l'immobilier, l'accès au logement et à la propriété si difficile en Colombie-Britannique. Donc je vous recommande fortement cet article paraissant dans le portail indépendant de Taï, c'est sous la plume de Jeff Dembeki. 9 choses que l'industrie de l'immobilier en Colombie-Britannique souhaite vous cacher. On va refermer ici la revue de presse nationale et provinciale pour les 19 et 20 juin. Le débrief vous revient dans quelques secondes à peine avec votre nouvelle francophone du jour. Les revues de presse internationales, nationales et provinciales, on va se tourner maintenant vers la rubrique francophone. C'est un communiqué dont je vous fais part aujourd'hui, un communiqué qui annonce le lancement de la nouvelle série documentaire pan-canadienne Jeunes et Franco. C'est un portrait de 50 jeunes francophones originaires de 12 provinces et territoires. Bellefeuille Productions, en collaboration avec la chaîne UniTV, annonce la diffusion prochaine de la série documentaire télévisuelle Jeunes et Franco. 10 épisodes de 26 6 minutes seront diffusées sur la chaîne Uni TV du 3 au 14 juillet à 21h, heure du Pacifique. Cette série jeune et franco poursuit le communiqué, s'intéresse aux jeunes francophones de 13 à 18 ans qui, au sein de leur communauté, se démarquent dans le domaine des arts et du leadership. La série parcourt le Canada en entier, d'un océan à l'autre, une province et un territoire à la fois. Les sujets sont abordés sous forme d'entrevues documentaires intimes et de rencontres avec les jeunes dans leur quotidien. Et ça débute le 3 juillet, on le rappelle, ça débute au Nouveau-Brunswick et ça se déplace de l'est vers l'ouest. Et la série atteindra la Colombie-Britannique au 9e épisode. On aura un premier épisode sur l'Ouest le jeudi 13 juillet et il portera nommément sur la Colombie-Britannique, sur les jeunes francophones de Colombie-Britannique. Et le 10e épisode portera sur le Yukon et les territoires du Nord-Ouest le vendredi 14 juillet, à ne pas manquer à l'antenne d'Uni TV. On s'arrête quelques instants pour faire une pause musicale. Au retour, ce seront nos interviews du jour.
Devine le sexe des étoiles.
écoutions à l'instant l'artiste Claude Pelgag dans l'émission Le Débrief, une pièce qui s'intitulait Le sexe des étoiles. L'info se poursuit dans cette édition des 19 et 20 juin, cette fois sous forme d'interview. J'ai le plaisir de parler en studio avec Gisèle Sanson dans quelques instants. Gisèle est l'une des pionnières de CILS-FM, votre station communautaire francophone qui célèbre ses 10 ans cette année. Gisèle sera avec nous donc pour parler notamment du projet Souvenance-Reconnaissance de l'Association historique francophone de Victoria. Restez à l'écoute, c'est dans quelques instants. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. J'ai le plaisir de retrouver en studio Gisèle Sanson. Bonjour Gisèle.
Bonjour Alexis.
Gisèle, on a eu l'occasion de se parler au Festival de la Francophonie de Victoria récemment. On se retrouve en studio pour parler d'un projet bien particulier, Souvenance-Reconnaissance. Je mentionne d'entrée de jeu que tu es la directrice générale bénévole de l'Association historique francophone de Victoria. Tu es aussi la gardienne des archives, donc un poste très important au sein de cette Association historique francophone de Victoria. On parle donc du projet Souvenance-Reconnaissance qui a reçu un appui gouvernemental récemment, me disais-tu?
Oui, ça vient de Emploi et Développement Social Canada et je dirais c'est dans la section Nouveaux Horizons et c'est avec une clientèle de 50 ans et plus.
Alors, quel est l'objectif de ce projet? Quelle mission se donne-t-on avec Souvenance-Reconnaissance?
C'est d'approcher les gens qui veulent bien se joindre à nous pour faire un atelier. On a pris la formule atelier parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans d'aller, c'est qu'on fait quelque chose pour soi. Ensuite, on reçoit de l'information d'histoire et ensuite, on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre.
L'histoire de Victoria?
Oui, ça va toucher ça, c'est sûr. Alors, je dirais pour un atelier qui a eu lieu dernièrement, le 14 juin, là, le troisième atelier, ça a commencé, premièrement, on ne sait jamais qui sera là. Alors donc, la parole est passée à tout le monde. On s'identifie. On peut même faire un exercice de respiration parce qu'on s'en vient faire travailler le cerveau. Et le cerveau, c'est ça qui est important pour la souvenance. L'action, le cerveau va nous aider à agir et la partie droite, la partie gauche va se compléter. Il va avoir de l'originalité. Il va avoir l'action, donc quelque chose qui va se faire. Alors, c'est pour ça que les deux mots sont ensemble, souvenance, reconnaissance.
Alors, après s'être centré grâce à la respiration, on a une activité pédagogique autour de l'histoire de Victoria. C'est à peu près ça?
Bien, c'est qu'à partir de... Comme là, on était dans le mois de juin. Alors, qu'est-ce que le mois de juin signifie pour chaque personne? Alors, il y a des aspects comiques. Les classes sont finies, on est en vacances. Un autre aspect, c'est, mais il y a des mariages aussi ce mois-là. Alors, ça dépend de qu'est-ce que les souvenirs, qu'est-ce que le cerveau produit là, dans la partie mémoire qui sort, qui s'exprime de chaque personne. Et quand il y en a une personne qui s'exprime, il y en a d'autres qui partent. À partir de ça, ils font du pouce. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent à ce moment-là. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on parle aussi de mémoire court terme, moyen terme, long terme. Alors, donc, ça nous fait un accès à l'histoire. Long terme, ça fait longtemps. Court terme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on découvre? Et moyen terme, bien, on doit se préparer, il faut faire une planification. Et le but de ça aussi, c'est que les personnes puissent apprendre à faire les étapes pour arriver à une production finale de quelque chose. Il y a des personnes, des fois, qui sont timides et ne savent pas quelle qualité qu'ils ont à préparer quelque chose. Et dans nos ateliers, on a une personne dans le dernier atelier qui a dit, ben moi, je vais faire des petits jeux justement pour le cerveau. Fait qu'elle est obligée de faire une recherche, l'exercer elle-même, et elle est venue Puis elle a dit à Marie-Hélène, je suis prête pour le faire. Donc, dans cet atelier-là, c'est elle qui a animé. Et on veut ça aussi pour arriver à multiplier les gens qui peuvent s'impliquer et faire des choses, apporter du nouveau dans nos ateliers.
À qui s'adressent ces ateliers? Est-ce qu'il y a un groupe d'âge en particulier ou un type de personne?
Puis, enfin, ça peut s'adresser à tous les âges, là, mais spécialement, nous autres, là, c'est 50 et plus. Puis, comme on travaille avec la génération des retraités aînés francophones et francophiles, qu'on appelle la GRAF, hein, bien, il y a 55 ans et plus qui sont les bienvenus. Oui, alors c'est diversifié comme âge et comme expérience, parce que là, on retourne des fois dans le passé bien loin avec quelqu'un qui a 87 ans, là.
Et puis l'autre, c'est une chance.
Oui, et puis l'autre qui a 56, là.
Oui, alors, c'est
la modernité entre les deux, et ça nous frappe, là. On était frappés par ça dans les ateliers. Donc, c'est un bon échange. Et là, j'en ai un qui s'en vient, un atelier. L'atelier 4 se fait à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Et je réunis tout le monde qui voudront bien venir, parce que là, je m'en vais pas célébrer une messe, là, puis je m'en vais pas faire le chemin de la croix.
C'est pas parce que c'est à la paroisse que c'est religieux.
Non. C'est parce qu'il y a la salle paroissiale qui est là. Un jour, il y a eu un groupe de Canadiens français qui ont voulu se donner une salle communautaire. Ils se l'ont donnée avec la paroisse, et c'était un centre d'enseignement de la langue française, d'enseignement de la pastorale, etc. Alors, on y va parce qu'il y a des choses qui sont là. Et les archives sont dans ce coin-là aussi. Et on va faire attention à des choses qui ont été placées au cours de la construction de cette église-là par des gens qui ne sont plus là et qu'on a oubliés. Mais ils sont écrits dans le tome 1 de Présence francophone 1843 à 1987.
Oui.
Alors, on va retourner à ce livre-là.
Volume qui est malheureusement épuisé.
Ouais, oui, mais qui est en bibliothèque ici, hein, si les gens veulent l'emprunter.
Ou alors sur le net, effectivement.
Et oui, il a été numérisé. Alors, donc, on va retourner à ça et on va dire, ah, oh, ben c'est Madame Lemieux qui avait donné la série des imprimés de M. Massicotte, c'était dans toutes les écoles au Québec, et elle avait une série ici, il manque quelques morceaux, mais on l'a ici. Alors, ben, voilà, tant mieux, on applaudit Mme Lemieux qui a pensé donner ça à la paroisse, et c'est ainsi qu'on va regarder ce que les gens ont laissé comme traces, parce que c'est ça les traces de nos ancêtres.
Fascinant. Donc, vous mentionniez un atelier qui approche à
oui.
grands pas.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on a une date?
Oui, c'est le 24 juin, c'est le jour de Saint-Jean-Baptiste, puisque la paroisse n'a pas été dédiée à Saint-Joseph, parce que la province était plutôt sous le titre Saint-Joseph. Mais c'est bizarre, c'est passé quelque chose de drôle. C'est que quand les gens voulaient fêter le temps de Saint-Joseph, c'est le mois de mars, il fait froid, il fait pas beau ici. C'est comme
ça. C'est pluvieux,
oui. Oui. Alors donc, ils ont plutôt décidé que si on leur accordait la permission de fonder une paroisse à partir du pape, que le pape dise un oui, eh bien là, ils avaient laissé ça à Saint-Jean-Baptiste de régler ça, et que si la paroisse était acceptée comme fondation, ah, on l'appellerait Saint-Jean-Baptiste.
Donc, ils ont été entendu.
Oui, ils ont été bénis ou récompensés. Je ne sais pas si Saint-Jean-Baptiste a vraiment intervenu. Mais...
Et ça tombe bien parce que c'est aussi le saint de la fête des francophones.
Oui, et c'était probablement lié aussi à ça. Ils ont dit, on a une bonne raison pour faire ça aussi. Ouais.
Donc, le 24, à quelle heure?
On fait ça à 14h et habituellement, ça dure à peu près 2h30. Donc, à 16h30, c'est fini. On doit respecter ça parce qu'il y a des gens qui viennent par Andy Dart seulement.
Oui,
des autobus
transport en
qui
commun.
Viennent les chercher.
Oui.
Alors, non, on respecte la finalité de l'événement. Oui.
À la salle paroissiale.
Oui,
c'est
okay, ça.
OK, magnifique. Je vois que, Gisèle, vous avez un feuillet, un dépliant devant vous. Est-ce que c'est un feuillet qui détaille un petit peu souvenance, reconnaissance?
Oui, bien, c'est parce qu'on avait fixé des buts, hein, évidemment.
Oui.
On partage, c'est un partage de mémoire personnelle et collective selon des thèmes déterminés d'avance. Reconnaissance de francophones ayant tenu un rôle important dans la survivance de la communauté francophone à Victoria. Et selon les désirs exprimés par le groupe, il y a des réalisations de projets commémoratifs. Et puis là, je vais même dire que dès le premier atelier, on avait en tête un pionnier, Léon Morel, et on en a parlé parce qu'il y avait des gens qui disaient, c'est qui ça, Léon Morel? Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la compagnie de l'abbé Dutson. Alors là, on s'est dit, il faut faire l'histoire. Alors, ça nous a amené à le placer sur un grand panneau, rouleau, qui est facile à transporter, mais qu'on étire. Et là, les gens voient l'histoire de Léon Morel en anglais et en français. Alors ça, c'est une reconnaissance de lui, là. On a fait ce rouleau-là en sa reconnaissance. Et puis, plus loin, depuis des années, c'est traîné ça dans les listes à faire, dans les archives, que le lot où il a été enterré à Rossby Cemetery n'a pas rien sur son terrain. Il n'y a rien qui a été placé sur ce terrain-là. Alors nous, on pensait toujours grand et on se disait faut mettre une stèle. Mais quand tu demandes des subventions, cette espèce-là de monument ou quelque chose comme ça,
commémoratif.
Oui, commémoratif. Oui. Il est mis de côté là. Alors on s'est fait couper le projet d'à peu près 4 000 parce qu'on voulait mettre quelque chose de significatif. Et dans le deuxième atelier, sous la tente, lors du festival, là, on a commencé à parler, ben, ça n'a pas besoin d'un gros comme ça, ça peut être une petite pierre, puis ça a diminué, puis là, peut-être, ça va rendre plus facile notre action pour qu'elle finisse
bon.
À la fin. Alors, voici.
Ça, c'est un des exemples des projets qui naissent de
oui.
Souvenance reconnaissance. Combien d'ateliers restera-t-il après celui de la Saint-Jean-Baptiste?
Là, on reprendra en septembre. On a même, c'est Marie-Hélène Bourret qui travaille avec moi comme assistante.
Oui.
Et la date est fixée pour le retour en septembre. Ça va être le 20 septembre. On n'a pas plus de détails parce qu'on l'a pas préparé là encore avec d'autres personnes. Mais le 20 septembre, ce sera la journée de notre retour. Et ensuite, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est sûr qu'il va y avoir un atelier à chaque mois. Parce que cette formule-là, elle a été prise parce que le sondage qui avait été fait à la Société francophone auprès de certaines personnes qui font partie de la GRAF, c'était on aimerait ça se rencontrer une fois par mois. Bon, nous, on pouvait pas le faire autrement que toucher l'histoire. Alors, on s'est dit, on va prendre cette formule d'atelier et puis on va faire un bout. Et puis là, je sais que la Société francophone, elle, veut en faire aussi des choses, laissant l'initiative aux membres de le faire dans la nouvelle salle communautaire, le grand salon qu'on a ici, à la Société francophone. Alors donc, on part quelque chose, puis en cours de route, on va être obligé de s'arrêter en mois de mars, nous, parce qu'il faut faire un rapport, puis c'est fini.
Oui.
Et là, la Société francophone aura des gens qui pourront continuer.
D'accord.
Donc, il va y avoir un transfert, c'est bon.
Tant mieux, tant mieux. Rappelez-moi le ministère qui a appuyé Souvenance Reconnaissance.
C'est Emploi et Développement Social Canada.
D'accord. Donc, ce financement vous permet de durer jusqu'en mars 2018.
En mars. Oui,
OK, magnifique.
C'est ça.
Alors, c'est un appel à tous, pour ceux qui sont libres le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, pour parler un peu d'histoire, faire des exercices de remémoration à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, la bien nommée paroisse Saint-Jean-Baptiste, ici à Victoria. C'est à 14h. Merci beaucoup, Gisèle Sanson. Au plaisir de se reparler prochainement.
J'ai juste ajouté que c'est sur la rue Richemont, OK,
oui.
Du côté de Fairfield.
D'accord.
301, c'est facile.
301, Richemont, oui. À Victoria. Merci,
merci
Gisèle, à bientôt. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci de suivre Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Nous allons parler d'éducation. Nous allons parler de l'école Victor Brodeur et plus précisément de l'annexe d'Oak Bay. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Carrie-Anne Arup. Bonjour Carrie-Anne.
Bonjour Alexis.
Alors vous êtes parent d'enfants à l'annexe d'Oak Bay. Vous avez 2 enfants à cette école francophone. J'aimerais tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas d'enfants parmi notre auditoire, peut-être expliquer un petit peu la situation de l'annexe. Qu'est-ce que c'est cette école-là? Quel est son statut exact?
Oui, alors c'est la 2e année scolaire pour l'annexe à Oak Bay. C'est une, on est associé avec l'école Victor Brodeur.
Oui.
C'est une petite école. L'année dernière, il y avait, je crois, environ 15 étudiants à la maternelle et la première année. Et cette année, il y a 30 élèves maternelles, première et deuxième année. Et à partir de l'année prochaine, on va accueillir 50 étudiants et nous allons être une école indépendante.
Très bien. Et toutes les classes se font en français, hein? C'est comme à Victor Brodeur.
Oui, exactement, exactement. Juste, c'est une. Alors, nous sommes basés à Oak Bay. Alors, ça comprend. Ça permet en fait aux familles qui habitent le quartier autour de Oak Bay ou à James Bay ou à Victoria, d'avoir accès à une école un peu plus proche de leur domicile.
Et le besoin était réel, selon vous?
Oui, 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 effectivement. Il y a beaucoup de demandes maintenant pour une scolarisation en français, ce qui est super. Et l'année prochaine, comme je vous ai dit, on aura 50 élèves, dont presque une trentaine à la maternelle. Alors, la demande pour cette éducation en français vraiment augmente beaucoup.
Est-ce que vos locaux sont suffisamment grands?
Oui, oui, nous avons suffisamment de locaux avec une belle gymnase, un très beau terrain, une petite bibliothèque et non, l'école est vraiment superbe. Elle était une école auparavant et du coup, elle est bien aménagée pour nous et pour nos besoins.
D'accord, donc c'est une école qui vous a été léguée en quelque sorte.
C'est ça, c'était une école, l'école Sundance à Oak Bay. Je connais pas trop l'historique de cette école. Mais l'édifice nous convient très, très bien.
Comment se répartissent les origines parmi les francophones d'Oak Bay et de Victoria? Est-ce que les enfants sont principalement de parents européens ou de parents québécois? Il y a une grande diversité à Oak Bay?
Oui, oui, il y a une grande diversité. De ce que je vois dans la classe de mes enfants, il y a certains parents qui sont européens. Il y en a qui sont québécois, il y en a certains qui sont d'origine africaine et de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord. Alors, c'est vraiment une très belle diversité dans la communauté scolaire à notre institution. C'est vraiment très, très bien.
Et les professeurs, j'imagine que c'est un petit peu le même topo, c'est pareil?
Oui, oui, oui. Là, il y a... En ce moment, il y a deux professeurs pour la maternelle, Madame Thérèse, qui est vraiment superbe et québécoise d'origine, et Monsieur Nathanaël, qui fait la première et la deuxième année, qui est d'origine française.
Oui.
Et oui, non, c'est vraiment bien. Je crois que c'est super pour les enfants parce qu'ils ont vraiment cette, ils sont exposés à une diversité qui est très représentative de la communauté francophone, de la langue française. Alors, c'est une très belle expérience pour eux. Et pour nous aussi, en tant que parents, nous avons la possibilité de courtoyer au quotidien aussi d'autres qui parlent français. Et ça nous fait du bien.
Merveilleux. Quelle était la motivation des parents, de la direction? Pourquoi obtenir son statut distinct face à Victor Brodeur? Pourquoi ne pas demeurer une annexe indéfiniment?
Je crois qu'une fois qu'on arrive à 50 élèves dans une école, on a, si je comprends bien, le droit de devenir indépendante. Ceci nous permet d'avoir accès à un peu plus de budget, de nous gérer aussi nous-mêmes pour nos besoins en tant que communauté de famille, des enfants. On sera toujours lié avec Victor Brodeur et on a le soutien de la Conseil scolaire francophone, évidemment, de la Colombie-Britannique. Alors, nous allons quand même être connectés, par exemple, les camps d'été ou les camps au printemps. On va les faire conjointement avec l'école Victor Brodeur. Mais si on voulait organiser notre propre le garde scolaire, ça, on va être indépendant. On va l'organiser nous-mêmes pour nos besoins et nos horaires en tant que communauté scolaire.
Plus adapté, plus calibré pour vos besoins locaux, quoi.
Voilà. Voilà.
D'accord. Et pour célébrer tout ça, pour célébrer cette indépendance, ce nouveau statut, vous avez une fête qui approche à grands pas, qui est en fait une fête de fin d'année, mais qui permettra aussi de souligner le nouveau statut de l'école. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur cette fête de fin d'année?
Oui, effectivement. Alors, vendredi le 23 juin, nous allons fêter la fin d'année et il y aura la célébration, c'est 14 heures de l'après-midi où on va remettre un petit peu les diplômes aux enfants. Ouais. Il y aura une petite pièce de théâtre. Et à partir de 15 heures à 17 heures, on sera dehors, espérons sous le beau soleil, dans le cours de l'école avec plusieurs activités et de la bonne nourriture qui nous est offerte par plusieurs restaurants du quartier. Et on va bien fêter ça avec des courses à trois pas, des maquillages, un bouncy castle. Et on invite la communauté francophone à venir avec nous pour justement pour célébrer une belle année scolaire et aussi pour bien marquer notre indépendance en tant qu'école à Oak Bay.
D'accord. Félicitations pour cette indépendance. On peut peut-être donner votre localisation exacte. Dans quel secteur d'Oak Bay êtes-vous?
Nous sommes sur la rue Bank,
oui.
Juste au nord de la rue Oak Bay.
Oui, d'accord.
Oui,
j'ai l'adresse.
Oui, allez-y. Moi, oui, je ne connais pas, je ne l'ai pas.
Alors, j'ai votre invitation.
Ah, 16, voilà, c'est le 1623 Bank Street.
Génial. Donc, l'appel est lancé. C'est pour tous les francophones de la communauté qui désirent aller assister à cette remise des diplômes, à la petite pièce de théâtre et parler avec des parents, profiter de l'ambiance de fête. Un grand merci, Carrie-Anne Arup, pour cet entretien qui permet de vraiment rafraîchir la mémoire à ceux qui avaient suivi un petit peu de loin l'évolution de l'annexe et pour ceux aussi qui ne connaissaient pas non plus nécessairement l'existence de cette école. Alors, c'est formidable. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler à la rentrée. Il y aura sûrement d'autres dossiers, d'autres sujets à aborder. En attendant, je vous souhaite ainsi qu'à vos enfants et aux élèves un excellent été.
Merci beaucoup. Merci, Alexis. Au plaisir de faire votre connaissance en personne, peut-être à la fête la semaine prochaine.
Certainement. À très bientôt. Merci.
OK. Au revoir.
Vous écoutez CILSFM 107,9 dans la grande région de Victoria. Nous sommes toujours dans le débrief, votre rendez-vous info quotidien. On va maintenant s'intéresser aux Jeux de la francophonie canadienne qui auront lieu à Moncton le mois prochain du 11 au 15 juillet. Figurez-vous que la Colombie-Britannique sera présente, elle sera représentée par équipe Colombie-Britannique et j'ai la chance d'avoir au bout du fil la chef de mission Sophie Audet. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexis.
Merci d'accorder cette interview. Donc, on a des athlètes qui vont traverser le pays pour se rendre dans les Maritimes et participer à ces Jeux de la francophonie.
Exactement. Ben, on a des athlètes, mais on a des artistes et des leaders aussi. Donc, les Jeux de la francophonie canadienne, c'est du sport, mais c'est aussi des arts et du leadership.
Merveilleux. Donc, combien sommes-nous au sein de cette équipe Colombie-Britannique pour représenter l'Ouest?
On est 91 participants au total, donc on a 71 jeunes là, qui font partie de différents volets, puis une équipe de 20 adultes, là, des entraîneurs et l'équipe qui organise.
Et la répartition athlète-artiste, c'est 50-50 ou c'est une proportion...
Non, c'est pas 50-50. Le sport prend quand même une grosse majorité de la place, là. Donc, je dirais peut-être un deux tiers en sport puis un tiers là, pour art et leadership.
Et cette année, pour cette édition 2017, on a de bonnes chances de se signaler, de se distinguer, selon toi?
Certainement, on n'est pas, je dirais, la délégation la plus compétitive, c'est-à-dire que on n'a pas évidemment le bassin francophone que certaines autres provinces peuvent avoir, mais c'est pas non plus notre objectif premier en allant aux Jeux de la francophonie canadienne. Donc oui, on vise certaines médailles, mais avant tout, les Jeux, c'est vraiment une célébration de la francophonie canadienne. Donc on va là vraiment pour rencontrer les autres provinces, créer des liens, s'amuser et avec évidemment une touche compétitive, mais sans, c'est pas nos attentes premières pour résumer.
Quel âge ont-ils ces participants? À quoi ressemblent-ils? Quel est le profil type?
Oui, les jeunes ont entre 14 et 18 ans. Je dirais que la plupart, peut-être le plus autour de 16-17 ans. Ils viennent de partout en Colombie-Britannique, puis c'était vraiment notre objectif aussi pour les Jeux. Donc, on a une délégation qui vient peut-être moitié... on a beaucoup de Victoria, en fait, et de l'île de Vancouver. Là, je dirais peut-être pas la moitié, mais presque.
Magnifique.
Le Grand Vancouver, on a des jeunes qui viennent de Prince George, on a des jeunes de l'Okanagan, de la Sunshine Coast. Donc, on a une représentation de partout, mais avec une grosse proportion, là, Victoria-Vancouver, bien sûr.
Est-ce que ce sont principalement des francophones ou y a-t-il également de jeunes anglophones francophiles qui sont en immersion, dans des classes d'immersion? Mm-hmm.
C'est une excellente question. En fait, c'est un de nos événements, je pense, où on va chercher justement un plus grand nombre de francophiles, ou en tout cas d'élèves qui sont en école d'immersion comparé à nos autres événements. Je pense justement parce c'est notre seul événement où il y a une certaine compétition, donc on va vraiment chercher des joueurs de volleyball, des joueurs de basket et tout ça. Donc, il y en a un petit peu plus qu'à nos autres événements, mais je dirais que les écoles du CSF sont quand même en majorité là, dans notre délégation. Je dirais qu'il y a peut-être un 70% d'élèves du conseil scolaire francophone, puis le reste en immersion.
Au précédent jeu de la francophonie canadienne, est-ce que l'équipe Colombie-Britannique s'était signalée? Est-ce qu'elle avait fait bonne figure?
Oui, ben toujours. En fait, en 2014, c'est ça, c'est à chaque 3 ans, mais en 2014, c'était à Gatineau.
Oui.
On a eu une super belle édition. On a eu quelques médailles, c'est certain, mais on avait gagné, entre autres, le prix éco-responsable, qui est un prix remis à une des délégations qui s'est distinguée par ses efforts de plus axés sur l'environnement. Donc, on avait eu ça. Et on avait à peu près 75 participants, si je m'en rappelle bien. Donc, cette année, on a un petit peu plus, mais oui, c'était une belle édition. Cette année, on est un petit peu plus de participants et je pense que ça va être une très belle édition dans les Maritimes cette année.
Est-ce que vous avez nolisé un avion? Comment ça fonctionne le transport de tous ces jeunes participants vers l'autre extrémité du pays?
Oui, en fait, c'est ça. Ben nous, au Conseil jeunesse, on organise tout ce qui est le transport provincial. Donc, on fait venir les jeunes de partout 2 jours avant le départ officiel pour Moncton. Donc, on s'organise de toute cette partie-là. On travaille avec la Fédération de la jeunesse canadienne française qui est en charge de l'orientation de l'événement, en fait. Puis, eux s'occupent du transport national. Donc, oui, on n'a pas un avion nolisé, mais on embarque quand même les 91 sur un même vol le 10 juillet au matin pour partir vers Moncton. Donc oui, c'est beaucoup de monde à l'aéroport, c'est belle ambiance, puis on est présent.
Et des chambres, du logis les attend là-bas?
Oui, en fait, on dort dans une... tous les participants dorment dans une école secondaire, donc une très grande école, vous pouvez imaginer, là. Donc, tous les participants logent là. L'équipe d'organisation loge sur le campus de l'Université de Moncton où ont lieu là, toutes les compétitions.
Est-ce que les jeunes conservent des liens avec des athlètes et des artistes francophones d'autres provinces après l'édition, selon toi? Est-ce qu'il y a des liens?
Oui, je pense que oui, en fait. Oui, ben en fait, puis l'exemple de notre équipe d'entraîneurs cette année est très jeune, mais c'est ce qu'on voulait aussi. Là, on voulait des Franco-Colombiens qui ont participé aux autres éditions des Jeux puis qui sont rendus des jeunes adultes qui peuvent encadrer des délégations. Puis on en parlait justement avec certains des entraîneurs qui, oui, ont encore des amis qui sont d'autres provinces puis qui se sont créés des liens, c'est ça, aux éditions là, en 2014 ou en 2011. Donc oui, c'est un des objectifs, je pense, de l'événement. Puis oui, ça fonctionne très bien. Il y a une certaine camaraderie qui se crée là, au sein de l'équipe CB, parce qu'on s'entend que juste notre équipe à nous, les jeunes, quand ils arrivent, ils ne se connaissent pas nécessairement. Donc, on a ça à bâtir en premier. C'est pour ça qu'on se rassemble 2 jours avant le départ vers Moncton. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on est là-bas, là, les jeunes qui sont dans la même discipline que toutes les autres provinces, là, ils rencontrent, qui sont en impro, d'autres joueurs d'impro qui viennent de l'Ontario, de l'Alberta. Donc, il y a des liens qui se créent aussi au niveau canadien.
D'accord. Sans vouloir vraiment isoler des vedettes ou faire des stars, est-ce qu'on a quand même des éléments dans l'équipe qui ont des chances de s'illustrer et de remporter des médailles? Est-ce qu'on peut citer quelques noms?
Je vais pas donner de nom, mais on a toujours eu une bonne équipe de volleyball masculin. Donc, on va voir ce qui se passe avec ça. On a un coach qui est là depuis plusieurs années, qui est encore là cette année, Rosé Duval, qui est de Victoria d'ailleurs. On a toujours eu des bonnes équipes en leadership aussi, improvisation, on se démarque. Donc, je vais pas donner de nom parce que je pense qu'on a toujours des jeunes différents à chaque année, des entraîneurs différents. Donc, ça veut rien dire au final. Mais oui, je pense qu'on a vraiment eu on a eu beaucoup de jeunes qui se sont inscrits, donc le processus de recrutement a quand même été long. Mais oui, je pense qu'on a une très bonne équipe cette année.
Magnifique. Est-ce qu'on peut vous suivre, suivre vos prouesses sur les médias sociaux?
Absolument. On a sur notre site web du Conseil jeunesse, sur la page des Jeux de la francophonie canadienne, il y a certains éléments, mais on a créé un blog spécifiquement pour l'événement. Donc, le nom du blog est un peu long à dire, donc c'est Conseil jeunesse. wixsite.com/équipeCB, mais sinon, allez sur notre site web, là, sur la page des Jeux pour retrouver le lien vers le blog. Et on va poster sur ce blog-là à chaque jour un résumé de nos journées, donc les chances de médailles, comment ça se passe pour toutes les équipes, ce qui ressort de ces journées-là. On va mettre des photos aussi. On a une photographe officielle qui va être avec nous. Donc, sur le blog, mais évidemment sur notre page Facebook du Conseil jeunesse.
Wow. Donc, si on tape sur Facebook Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, on a de bonnes chances de tomber sur votre Facebook, j'imagine.
Exactement. Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Puis là-dessus, on va poster à tous les jours, particulièrement là, pendant la période des Jeux, donc du 10 au 16 juillet à Moncton.
Magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un bilan après les Jeux, lorsque vous serez fraîchement de retour, Sophie. Merci beaucoup de m'avoir donné le topo sur la préparation et puis l'anticipation enthousiaste là, en prévision des Jeux. Au plaisir de se reparler prochainement.
Ben merci beaucoup, Alexis. Au plaisir de se parler au retour.
D'accord. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de l'émission Le Débrief pour les 19 et 20 juin. Merci d'avoir été à l'écoute et encore merci à Gisèle Sanson, à Karianne Arup et à Sophie Audet. On se retrouve donc demain pour une autre édition du Débrief, même heure, même fréquence. Demain, émission spéciale, on fera un tour de table avec des ressortissants français pour effectuer un bilan du second tour des élections législatives qui ont eu lieu hier dimanche 18 juin. Donc ne manquez pas cette émission spéciale du Débrief demain, donc ce sera l'édition des 20 et 21 juin. À très bientôt.
Écoutez CILS FM, la voix de votre communauté.
Bonjour.
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 Je m'appelle Tiva et on fait partie des nouveaux reporters.
Écoutez les nouveaux reporters sur CILS FM, l'émission réalisée par les étudiants des écoles francophones et d'immersion de la Colombie-Britannique avec leur coup de cœur.
Pourquoi aimes-tu les Blue Jays de Toronto si tu vis en Colombie-Britannique?
Et des interviews.
Tu parlais à propos des manques de volontaires. Que fais-tu pour dépasser ces obstacles?
Très, très bonne question.
Les nouveaux reporters, c'est vendredi vendredi et samedi à 18h sur CILS FM 107,9.
When day is done and shadows fall, I dream of you. When day is done, I think of all the joys we knew. That yearning, returning to hold you in my arms. Won't go, love, I know, love, without you. Night has lost its charms when day is done and grass is wet with twilight's dew. My heavy heart sinks like the sun. Though I miss your tender kiss the whole day through, I miss you most of all when day is done.
I miss you most of all. CILSFM, la voix de votre communauté.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILSFM.
Qu'il se lève celui qui ne se paye pas 10 minutes, 10 minutes de calomnie par jour. Qu'il se lève celui qui n'admet pas dans sa tête une présence défendue par jour. Qu'il se lève celui qui a donné son habit pour vêtir plus malheureux que lui. Personne n'a bougé, les saints courent pas les rues, quelque chose à essayer, les risées sont prévues, comme Abraham, Isaac et Jérémie. Le vieil Horace, Salomon et Saint-Louis, lancer un câble à l'étoile dans la nuit, tête hors de l'eau, faire quelque chose hors d'ici. Porte-monnaie, parchemins et beaux tissus, crédit valeur, placements à fond perdu. Ça fait de l'engrais et c'est vraiment perdu. Quand le fil se coupe, on part tout seul, on part tout nu. Qui se lève celui qui n'a pas sur l'oreiller rêvé d'avoir sa revanche un jour. Qu'il se lève celui qui a failli mourir de joie au succès de son ami un jour. Qu'il se lève celui qui accepterait l'agonie de son frère dans le lit un jour. On vivra centenaire, on a trop de choses à faire, dans une semaine aussi, ça se peut que tout soit fini. Comme Monsieur Gandhi, Geneviève et Saint-Vincent, et tous ces fous, insensés, ignorants.